ça va, attention, non, mais
tout le monde ensemble.
Ça s'en vient, ça va réveiller. Ça va long.
It starts with one. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try.
On l'a-tu chanté pareil, ce tune-là, quand c'est sorti?
Tabarouette.
On avait une voiture en panne sur Henri IV Sud.
Ça, ça veut dire en provenance de Val-Bélair. Ouais.
De rien.
Ah, j'ai assez hâte d'être en congé tantôt.
À hauteur du chemin des Quatre Bourgeois.
Oui, juste dans
Henri IV Sud.
Dans la montée.
Au moins, on est dans la direction où est-ce que c'est moins grave, entre guillemets. Là. Mm-hmm. Ça
c'est
peut quand même poser des ralentis, mais des ralentissements.
Peu de gens quittent vers la rive sud.
Ouais, c'est ça, à cette heure-là. Mais je peux te dire, moi, ça, à date, là, cette semaine, à tous les matins, quand je quitte pour la Rive-Sud, justement, vers 10h15, 10h30, là, c'est tout le temps encore assez dense, je dirais, sur Henri IV, direction nord.
Pis,
fait que salutations et courage aux gens qui sont pris dans le bout de... À l'entrée des ponts, ça arrive sud, sur les ponts, quelque part sur Duplessis ou
Charest
sur l'Orier.
Charest aussi.
Charest.
Parce que Duplessis vient se vider sur Charest, mais vous aurez compris que même en milieu de journée, quand il y a des embouteillages...
Ouais.
C'est rare.
On pense à vous autres et on fait notre possible pour vous amuser, mais aussi vous informer. Et c'est ce qu'on fera dans les prochaines minutes avec Queen P. Qu'est-ce qui retient ton attention ce matin, Pascal?
Surtout un fait divers dans Beauport, en fait, depuis hier soir, là, ça retient l'attention de tout le monde. Autour de 18h, les policiers ont eu vent qu'il y avait un homme qui, en fait, menaçait là, sa propre vie. Il y avait des propos suicidaires. Alors, on s'est déplacé du côté de la rue des Bollets, un homme de 41 ans qui tenait des propos suicidaires. Les policiers ont entré en contact avec lui, mais il n'a pas voulu collaborer. Alors, on a érigé un périmètre de sécurité autour de la résidence. À 20h30, c'est là que la tension a monté parce que plusieurs coups de feu qui provenaient de la résidence qui ont été entendus. On a même visé certains policiers avec ces coups de feu-là. Et les policiers ne parvenaient plus à entrer en contact avec l'individu en question. On a même évacué des gens qui habitent proche de cette résidence-là. Et vers minuit, on a réussi à pénétrer à l'intérieur de la résidence pour retrouver l'homme sans vie. Le Bureau des enquêtes indépendantes fait une enquête. C'est sûr, il y a 8 policiers qui vont travailler là-dessus, 8 enquêteurs du BEI. Et pour l'instant, ce sont les seules informations qu'on va avoir de ce dossier.
OK. J'ai pas grand-chose à ajouter, à part que c'est... À part que, en fait, moi, l'affaire qui m'a shaken matin, c'est 41 ans. 41 ans, là. Mm-hmm. T'es pas au bout de ta vie, là. T'es au milieu, quelque part au milieu, si tout va bien. C'est que ça m'a shaken. 41 ans, je trouve que c'est... on le sait, là, c'est pas un secret pour personne. Je sais pas si vous avez regardé l'émission Police en service, là,
oui.
À Télé-Québec, là, mais ouais. c'était pas une surprise, mais ça nous le fait réaliser encore plus.
Mm-hmm.
Mais c'est quoi, 3 cas sur 4, c'est de la santé mentale?
Ou de la détresse, oui.
Dans le travail des policiers à Québec, là. Il me semble que c'est 3 sur 4. Je veux faire attention, je veux pas dire n'importe quoi, mais... Tu sais, la détresse psychologique, particulièrement ces temps-ci, mais aussi depuis une couple d'années, là, c'est des méchants enjeux. Ouais.
Un autre fait divers, c'est une voiture avec 2 personnes à bord qui a plongé dans une rivière hier après-midi, mais ça s'est passé dans la Naudière sur la sortie de route à Saint-Michel-des-Saints. L'enquête de la Sûreté du Québec se poursuit encore en ce moment, mais on a appris tard en soirée que les 2 occupants du véhicule étaient un homme dans la 20aine et un enfant de moins de 10 ans. Alors, tout un drame de ce côté-là. Je ne sais pas si c'était un rêve prémonitoire ce que j'ai fait, c'est juste que dans un, je participais, dans l'autre, non. C'est la réalité
de partir
avec la police arrive et tout ça. Il faut savoir que du côté des Laurentides, les policiers sont intervenus ce week-end pour des rassemblements illégaux dans des chalets locatifs. À Mont-Tremblant, il y a 7 jeunes Montréalais âgés de 19 à 24 ans qui ont été épinglés par les policiers municipaux. Les contrevenants ont causé pour au moins 1 000 $ de dommages au chalet qu'ils ont loué, en plus de ne pas avoir le droit d'y être, là. Mais selon ce que Cogeco a appris, la Sûreté du Québec s'est de nouveau rendue à des chalets du complexe Blueberry à Lake Resort à La Belle en fin de semaine. Encore là, 9 rapports d'infraction qui ont été remis à des Ontariens pour cet événement-là. Et on intervient régulièrement dans des complexes de chalets locatifs au Québec depuis le début de la pandémie.
T'as-tu, en passant par là, du chalet vandalisé et autres, il est arrivé à la même affaire au Mont-Saint-Anne?
Des chalets vandalisés?
Ouais, c'est ça. L'un des chalets, je suis en train de vous lire un extrait d'un texte de Jean-François Racine, Journal de Québec. Là. L'un des chalets situés au sommet du Mont-Saint-Anne était la cible de vandalisme à la suite de rassemblements illégaux dans les dernières semaines. C'est quand même... ils sont pas fous. Ils se sont dit, si on va au Mont-Saint-Anne, on n'a pas lieu, ça se rendra à Melo. Hein, ça se rendra pas là.
Si on le monte à pied, c'est ça que tu veux dire?
Ben, écoute...
C'est-tu la Sûreté qui s'occupe de... qui va à Beaupré, Mont-Saint-Anne?
À Saint-Féréol, ça doit...
Ouais.
J'aurais tendance à penser que oui, mais là, tu m'en poses une bonne. Mm-hmm. Mais j'aurais tendance à penser que oui. Ouais. Mais donc, effectivement, c'est... Il y a une affaire aussi. Il y a une espèce de période dans... on dirait qu'il y a, certains jeunes, parce que c'est vraiment une minorité, mais il y a comme une période où on dirait que tu as envie de péter du stock. Puis ça, j'ai jamais compris ça. Moi, je me suis déjà retrouvé dans un party où les gens se sont mis à faire de la casse, là.
On
pas agressif, à joyeusement péter des affaires.
On brise.
Puis je suis venu tellement mal, là. Puis, tu sais, dans un chalet loué, dans le bois, à l'autre bout du monde. Fait que tu peux pas faire comme, « Hey, moi, je cautionne pas ça, je m'en vais. »
Boisson, drogue, aidant.
Fait que là, t'es comme pris là, en plus, tu sais. Mais oui, partez de ça. Pis, y a, mais comme pris là, puis il y a des gens qui se mettent à péter des affaires. Puis, sérieux, c'est vraiment un feeling épouvantable.
Je veux pas faire du sexisme, là, mais c'est... C'est pas masculin.
Non, c'était très. C'était un party où il y avait beaucoup de monde, puis les gars, les filles.
C'était tout le monde. Fait que là, c'est le quotient du groupe qui avait tendu.
J'ai rarement vu un quotient aussi bas dans un groupe, moi, dire en affaire. Mais
je me rappelle d'un party.
J'ai jamais compris ça, moi. Ça, avoir envie de péter. Tu sais, parce que c'est le fun, un party d'un chalet. Hey, une super gang, ça fait du barbecue, tout, ça prend un coup. Ça peut pas être plate, là. Let's go, c'est le fun. Pourquoi t'as envie de péter des affaires? Ouais. C'est quoi le plaisir que tu retiens à péter des affaires? Je peux te dire, moi, j'avais été... En tout cas, ma façon de gérer mon espèce... Parce que c'est un peu gênant aussi, à un moment donné, là. La honte d'être là. Puis, tu sais, j'ai pas participé à briser rien. Ça, je vous l'annonce tout de suite. Mais moi, ça avait été de ramasser le lendemain. De ramasser, nettoyer, d'essayer de préserver un peu ce qui a pas été brisé. Mais hey, je vous le dis, c'était... Une méchante belle expérience de marde, ça, ouais.
Mais c'est surtout aussi pour ceux qui ont des chalets. Après, c'est pour ça qu'ils veulent pas louer à des jeunes quand ils.
Exact.
Puis c'est plate parce que quand t'es jeune, t'as envie d'avoir ce type de rassemblement-là, puis personne veut te louer. Ouais. Je me rappelle d'un party au secondaire où on avait aidé un ami à préparer la maison, puis il nous faisait enlever les rideaux, puis je comprenais pas. Puis il avait dit ça, puis je suis encore sidérée à 27 ans de ça. Salut Fred. Puis il avait dit on va enlever les rideaux parce que mes amis, ça se peut qu'ils tirent dessus puis qu'ils scrapent tout ça. Puis je suis comme, pardon. C'est qui tes amis? C'était comme un party avec des gens aussi que je connaissais pas, là. Donnait pas trop le goût. Mais bon. Bye bye, Régis. C'est comme ça que j'ai interprété ma nouvelle ce matin. Le maire de Québec qui ne va pas solliciter un cinquième mandat. Il va quitter en novembre prochain. Ça a été annoncé hier. Régis Labombe, qui est à la tête de la capitale nationale depuis 2007. C'est une décision qu'il dit réfléchie, qu'il aurait prise aussi avant le scrutin de 2017. Mais il voulait vraiment doter Québec d'un réseau de transport en commun, digne de sa ville, digne de la ville de Québec avant de quitter. Alors, un dernier mandat qui n'aura pas été très facile pour M. Labombe en raison de la maladie, du décès de son père, de la pandémie, des écueils rencontrés dans le dossier du tramway qui, lui, voulait mener à terme coûte que coûte, mais aussi mentionné là, que durant sa carrière politique, les deux événements les plus difficiles ont été la tuerie de la Grande Mosquée de Québec et la tragédie de l'Halloween. Alors, c'est terminé pour le maire Labombe à la mairie de Québec. Les vaccins contre la COVID-19 de Pfizer et BioNTech, je vous en parlais hier, mais là, c'est confirmé. Ils pourront être administrés aux adolescents de 12 à 15 ans. C'est ce qu'a annoncé Santé Canada hier. Alors, l'Autorité médicale canadienne qui a basé sa décision sur une analyse, un sondage, mais bien sûr, surtout, une étude scientifique auprès de 2000 participants de 12 à 15 ans. Et on a noté que le taux d'efficacité du vaccin Pfizer auprès de cette population-là est de 100% après les deux doses.
C'est bon.
Alors, c'est dans ce qu'on concerne et qu'on appelle l'excellent. Hein? 100% pour cette catégorie d'âge-là. Mais on avait déjà commencé à préparer le terrain avec le ministre de l'Éducation, là, le docteur Horacio Arruda, qui avait commencé des démarches pour offrir la première dose aux jeunes de 12 ans dès cet été, la deuxième à la rentrée scolaire. On attendait juste qu'on homologue le dit vaccin là, par Santé Canada pour cette tranche d'âge-là, ce qui a été fait hier.
J'imagine qu'ils vont quand même se retrouver loin là, dans la liste de priorités. L'affaire, c'est qu'ils n'étaient pas dans la liste de priorités, puisque le vaccin ne s'adressait pas à eux autres, mais j'imagine qu'ils vont se retrouver quand même assez pas mal les derniers. Là,
ben, loin,
comme
le
risque pour la santé.
Première dose cet été, puis c'est surtout qu'on veut faire en sorte qu'ils retournent sur les bancs d'école sans interruption pour la prochaine année. Donc, puis on a vu qui étaient des agents de contamination, finalement, durant cette autre vague. Là.
Ce que je veux dire, c'est que on est encore très confiant d'atteindre l'objectif d'avoir vacciné tous les adultes avant le 24 juin, en tout cas avant Saint-Jean-Baptiste, une première dose. L'affaire que je me dis, c'est juste, bon, évidemment aussi, ça va dépendre des stocks de vaccins qu'on a, parce qu'il y a ça qui
c'est le bout qu'on contrôle pas.
Qu'on contrôle pas, exactement. Mais comme c'est Pfizer et Moderna, tu sais, je pense par exemple aux femmes enceintes là, qui on a suggéré Pfizer et Moderna, puis pas AstraZeneca et l'autre, parce qu'en fonction du type de vaccin, c'est mieux ça, parce que sinon l'autre peut avoir plus de risques. En fonction aussi de l'âge, à un moment donné, comme nous autres, à notre âge, Pascal et moi et Pierre, AstraZeneca est pas encore
recommandé.
Ouvert, pas recommandé. Ça fait que là, ben, Pfizer, Moderna.
Il y a beaucoup de restrictions pour l'AstraZeneca.
C'est pour ça que je me dis, il faudrait juste quand même s'assurer avant de vacciner les 12 à 15 ans avec ces vaccins-là.
Mais c'est Pfizer là, qui a été choisi, BioNTech.
Pas Moderna, mais Pfizer exclusivement. Faudrait s'assurer que tout le monde est vacciné.
On a du stock.
Parce que le 24 juin, en plus, ça laisse quand même pas mal de temps là, avant la rentrée scolaire. Là, mais ça va dépendre des
stocks. Moi, je pense que le ministère de la Santé aurait beaucoup aimé commencer la vaccination avant la fin des classes.
Hey, imagine, pour vacciner des écoles,
c'est ça. C'est un méchant bordel de moins. Parce que sauf que là, en même temps, je comprends qu'il y a des instances qui sont... Il y a des endroits désignés et tout ça, mais... La vaccination dans les écoles, ça aurait été un casse-tête de moins pour la campagne.
L'autre bout qui va être compliqué, c'est les vacances des gens là, pour la deuxième dose. Là. Il y a des gens qui,
qui refusaient de reporter.
Ça peut devenir complexe.
Moi, je vais
accepter ma date. Moi, honnêtement, je vais faire mon petit bout puis je vais accepter ma date.
Je pense qu'on doit tous faire ça.
On devrait tous faire ça. En même temps, bon, ça m'étonne pas tant que ça qu'il y ait des gens. Moi, je m'attends à ce que le taux de vaccination, là, point barre, peu importe la raison, mais que le taux de vaccination pour la deuxième dose soit plus bas que la première. Il y a aussi des gens qui vont se dire, j'ai reçu une, c'est en masse. Tu vous rappelles qu'à un moment donné...
Différentes raisons, mais ouais, je pense que tu as raison.
J'avais déjà donné cet exemple-là, mais je vais le redonner. Là, parce que, tu sais, je me souviens, à un moment donné, c'était pendant la première vague, donc au printemps passé. J'étais venu en taxi, parce que je venais des fois en taxi à station quand je restais encore proche. Puis le chauffeur m'avait dit, moi, pandémie, là, crois pas à ça. Là, genre, comme, mais là, tu sais, on te rappelle, on est genre au mois d'avril passé.
Je crois pas à ça.
Avril-mai, mettons.
On était dedans pareil.
Oui, oh, oui, non, on était confinés à côté.
Il croyait pas.
Non, on était confinés depuis 8 semaines. Là. Mais, je dis, comment ça, vous croyez pas à ça? Il dit, ben moi, je lis le journal, là, regarde les avis de décès, il n'y en a pas plus. Là, j'avais fait, ouais, mais là...
C'est toute une conclusion, ça.
C'est pas parfait, là, votre théorie, là, tu sais, parce que...
Bon, non, mais il n'y en a pas plus, explique-moi ça, il n'y en a pas plus.
C'est ça, mais je me suis pas ostiné avec non plus, parce que... Mon envie en tout ça, puis un coup de pied d'un chenol. J'aurais pris le coup de pied, là, ça me tentait pas pantoute. Mais, tu sais, il y a quand même, ça existe, là, du monde qui font comme, ah, mais ça, non, ça marche pas de même.
C'est sûr.
Fait que la deuxième dose, moi, je m'attends à ce que ça soit quand même tough de convaincre. Fait que là, il s'ajoute à ça la date des vacances. Je le comprends. Puis moi, encore là, c'est facile de dire ça pour moi, parce que mes vacances, c'est pas compliqué. Ben, mon été est consacré soit à travailler, ou soit être chez nous, profiter un peu de la maison, parce qu'on n'a pas de gros plans là, avec ma blonde.
Non.
On part pas 2 semaines. Fait que c'est sûr que c'est facile de faire comment? Oui, moi, c'est telle date, je vais être là.
Ben, à cette heure, attends que Moderna arrive avec sa 3e dose. Là, tu vas courir après ton monde.
C'est sûr.
Mais est-ce que ça va être plus genre à l'automne?
Je pense que ça va être plus à l'automne, avec un ajustement selon les variants et tout ça, mais méchant casse-tête, sans blague, là.
Mais je suis en casse-croûte, t'aurais à dire comme
ça. Casse-croûte aussi. Casse-croûte aussi.
La bourse revient dans l'actualité ce matin dans Le Devoir avec la transmission en milieu de travail et une résistance à suivre les consignes qui sont en cause pour expliquer que la bourse continue d'afficher un des bilans de nouvelles infections au coronavirus les plus lourds au Québec. Donc, par contre, la région se trouve en confinement strict depuis 1 mois et on aimerait que ce soit encore moins élevé, les cas de nouveaux contact avec la COVID-19. Il y a un sondage récent qui a révélé qu'en Chaudière-Appalaches, il y a 38% des citoyens qui respectaient les 3 consignes de base, comparativement à 46% pour l'ensemble du Québec. Les autorités sanitaires pointent l'influence de leaders politiques qui résistent aux consignes dans la région, tels que Maxime Bernier, pour justifier cette faible proportion.
Un grand leader.
Conférence de presse aujourd'hui, 13h. Qui la donne?
À 13h aujourd'hui, Christian Dubé.
Oui, Christian Dubé, effectivement. Sur...
Un point. La COVID.
Campagne de vaccination. Oui. Alors, vous avez presque gagné le quiz. Il sera avec...
Monsieur Tel.
Monsieur Arruda, oui.
Arruda.
Monsieur Paré, Daniel Paré, directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec. Alors, 13h à votre agenda, si ça vous intéresse.
Jeudi passé, il nous avait dit que ce serait Richard Massé qui serait là. Finalement, c'est Monsieur Arruda qui s'est pointé.
Arrête donc, toi!
Non, mais c'est parce que Monsieur Massé, il sort pas souvent dans les médias, mais moi, j'adore faire mes émissions le lendemain de point de presse de Richard Massé.
C'est
parce
plus
que,
clair.
Hein? C'est mille fois plus clair qu'Horacio Arruda.
Ce serait lui qui serait le plus dur envers les sports, M. Massé, de ce qu'on m'a dit.
Ça se peut. C'est fort possible.
Le plus sévère.
Puis, je veux dire, je pas le fin détail.
C'est pas le favori de Ray, de ce qu'on
parler.
Ça, il a adressé 2 mots au rack à Bessic.
Mais publiquement pour s'exprimer, là, c'est le jour et la nuit par rapport à Horacio Arruda qui met 3 idées par phrase, qui finit aucune de ses idées.
Je parle pas des compétences. Ça avec une recette. Puis,
sans joke, Horacio Arruda, là, côté communication publique, ça été, moi je trouve que c'est l'épine dans le pied du gouvernement. Ben, pas du gouvernement, parce que théoriquement, pas dans le gouvernement, mais on comprend qu'il y a une proximité. Là. Dans la campagne de communication pour la COVID.
C'est la première fois qu'on dit ça, hein, ça.
Ben, moi, je le dis souvent, mais il n'y a pas tant de monde qui dit ça.
Hein?
Que Arruda, pour la communication orale, c'est pas son...
Hey, j'ai zéro envie de partir ce débat-là, mais ça m'apparaît évident. Je partage ton avis.
OK. Non, mais mettons, j'ai entendu Joe, puis c'est pas contre Joe, mais Joe, à un moment donné, a dit que Horacio Arruda était un des bons communicateurs. Moi, je suis en désaccord avec ça. Puis, mais c'est correct, là. Je veux dire, on a droit chacun notre opinion, mais moi, je pense qu'il finit pas ses phrases. Quand tu finis pas tes phrases, tu vas pas au bout de ton idée.
Hey, ça se demandait si hier, il disait pas le contraire. Donc là, finalement, écoutez Troulane, vous aurez la vérité sur ce que pense Jonathan du docteur Arruda.
Excusez, puis c'est pas contre Joe, là. Je jase parce que je pensais à lui en premier.
C'est pas contre Joe, c'est contre Arruda, le go dictature sanitaire.
Non, c'est contre Landry.
Ouais,
quand Landry. C'est pas contre Trudeau, c'est contre Landry.
Ouais! Maudit vendu!
Excusez, les gars.
L'OMS qualifie de décision historique l'annonce d'hier des États-Unis. Et c'est gros. Je sais pas si ça passait entre deux cracks de votre côté, mais les États-Unis ont avancé qu'ils étaient favorables à la levée des brevets sur les vaccins anti-COVID. Alors, ouste l'économie et plutôt bonjour la santé. Une prise de position exceptionnelle, faut le dire, qui survient quand les pays pauvres manquent cruellement de précieuses doses. Sans surprise, la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique a pour sa part jugé décevante cette annonce-là. Pour l'heure, les brevets sont détenus essentiellement par des laboratoires américains. Ils sont globalement opposés à leur levée parce que ça les priverait, selon eux, d'une manne financière pour des innovations coûteuses. Donc, eux voudraient remettre de l'argent dans leur machine pour peut-être produire autre chose ou encore améliorer leur institution. Mais voilà qu'il y a quand même quelque chose de très gros qui s'est passé dans l'actualité, soit celle où on s'est montré favorable à la levée des brevets pour les vaccins anti-COVID. Ça veut dire quoi? Dans le langage que tout le monde peut comprendre, ça veut dire que si vous voulez commencer à créer un vaccin avec la recette de Pfizer BioNTech, par exemple.
Ricardo va sortir un livre.
Ricardo, c'est ça.
C'est
intéressant.
Ben oui, l'aspect business est très intéressant.
Oui.
Moi, ce que je me demande, c'est si c'est possible, dans le sens où les compagnies, là, Pfizer, Moderna, Strobingo et compagnie, là, qui ont fait de la recherche et développement quand même. Là,
pour Chicago ici, mettons.
Oui. Ils mettent une fortune en recherche et développement.
Oui.
Et ça, c'est une influence sur le prix du vaccin, de chaque vaccin, le prix unitaire d'un vaccin.
Oui.
Une compagnie qui a une usine, une compagnie pharmaceutique qui a une usine, mais qui n'était pas dans les histoires de vaccins, puis qui décide que, nous autres, à partir du moment où on a la recette, on l'a fait, est probablement capable de fabriquer un vaccin pour moins cher. Elle peut-tu être capable de fabriquer un vaccin pour moins cher?
Oui.
Là, si c'est le cas, ça déséquilibre toute la patente.
C'est ça. Moi, tu vois, l'angle que je prends, là, c'est, mettons, Pfizer, la compagnie Pfizer, là, fait des profits, évidemment, en ayant fabriqué le vaccin, puis en vend. Moi, je me demande si, parce que ça a été rapide pour la production de ce vaccin-là, est-ce que les revenus qu'ils ont fait avant cette compagnie-là, ça a aidé à ce que le vaccin soit développé plus rapidement, comprends-tu? Il est arrivé la pandémie après.
Très intéressant.
Parce qu'ils ont eu les moyens de
développer le vaccin parce qu'ils avaient les moyens de le faire. Déjà, avec les revenus ou les profits qu'ils font, là, ils développent d'autres choses, on ne sait pas quoi, mais ils travaillent sur d'autres choses pour
la recherche
eux, leur job.
Cher. Ça se peut très bien.
Il y a l'aspect aussi argent public. Y a des
ils sont subventionnés beaucoup.
De fonds
c'est ça,
publics,
c'est pour ça que c'est
là,
intéressant
qui sont pharmaceutiques.
Le dossier des brevets.
Ça fait que tu as aussi la question, mettons qu'on sort de la mécanique, bon, l'offre, la demande, les prix, l'impact sur le marché. Il y a quand même un principe théorique qui est votre argent, notre argent, donc des fonds publics, surtout des fonds publics américains, mais en même temps, bon, des fonds publics de partout dans le monde qui sont investis puis qui servent à subventionner les compagnies pharmaceutiques. Est-ce qu'il n'y a pas un devoir, justement, de rendre ça à la population en disant, bon, à partir d'un certain moment où on a fait des profits, là, les brevets, on fait tomber les brevets pour que ça aille plus vite. Pour
mais
faire
le
point
de vue est différent.
Ils sont en bourse, eux autres aussi. Là. Il y a des rendements qui sont demandés par les gens qui investissent dans Pfizer.
Oui,
là.
Vrai.
Donc, eux, que tu donnes ton brevet... que je tu fais
pas
là,
faire leur affaire.
Parce que moi, j'ai pris du Pfizer parce que je sais que ça va bien vos affaires. Mais vous êtes en business, vous êtes là pour faire des profits. Tant qu'à moi, là, comme investisseur, moi, je pense juste à l'investisseur.
Oui, oui, mais
c'est plus complexe que dire, OK, bon, c'est quoi faire, on va faire ça.
Mais quand le président Biden, il dit, on pourrait demander justement, est-ce que, si j'imagine qu'il fait, il lance pas ça lui de même, il sort pas ça de son chapeau.
Mais ça a beaucoup d'impact.
Oui, oui, mais il doit y avoir un calcul aussi qui est fait. La cote de Pfizer est rendue où, là? Tu sais, ça a été quoi l'impact sur la valeur de l'action de Pfizer?
Faut pas que ça fasse perdre la valeur.
Non.
Je pense, en tout cas.
Mais si ça ne l'a pris énormément,
oui.
Ça peut être une façon de corriger aussi, tu sais. En tout cas,
mais en bout de ligne, il y a la santé des gens. Là.
Parce que
pas
c'est
en bout
ça,
de ligne, ouais, pas ouais, en bout ouais. de ligne, dans le fond, c'est
mais la question, ça vient dans et le débat est intéressant en se posant la question jusqu'où on peut aller en se disant hey, c'est bon pour la santé, on enlève les brevets, mais en même temps, en enlevant des montants d'argent à des entreprises qui, eux, vont continuer de développer. Oui. Et ça, c'est un des problèmes qu'on a vu en début de pandémie. Oui. Les gens qui ont continué dans les dernières années à investir dans un futur vaccin qui sert à rien pour le moment, mais qui risque de servir un jour si jamais il y a une pandémie, ce qui est arrivé,
ouais.
ben sont prêts. Puis ça, ça a causé beaucoup de problèmes parce que, écoute, quand c'est l'argent avant tout, il faut que ça rapporte maintenant. Ça a bloqué beaucoup d'entreprises d'aller plus loin dans leur cheminement puis de peut-être sauver le monde.
Ouais. Mais puis, il faut pas que tu te retrouves non plus avec ce qu'on pourrait appeler la théorie du biscuit feuille d'érable, c'est-à-dire que tu as la version du biscuit feuille d'érable qui est délicieuse, qui est faite par la marque je sais plus quoi, sur Marie
bon.
Claire ou quelque chose.
Il y a des dares aussi.
Et tu as la version dégueulasse du Dolo. Est-ce que
très
là,
bon.
Ben, t'sais,
oui.
Mais
ça coûte le carton.
C'est pas normal en tant que société, monde, planète, dites ça comme vous voulez, là, qu'en novembre dernier, là, quand on a dit parfait, on l'a le vaccin. Je dis novembre, c'est peut-être octobre, mais on l'a.
Société, monde, planète, moi, c'était ça.
On l'a le vaccin, puis c'est pas normal que les entreprises qui produisent des vaccins partout dans le monde n'aient pas eu accès à ça. Puis je comprends là, la logique de l'argent, puis tout ça. Là.
Ben, c'est, mais là, il y avait un peu le monde capitaliste. Qui...
Ça, c'est vrai. En temps normal, c'est vrai. En temps de pandémie, ça, là, il faut trouver une façon, je ne sais pas comment, là. Il y a une façon que ça tombe, ça.
Think outside the box.
En pandémie, là, il y a urgence d'agir. Il y a des gens qui meurent. Fallait qu'ils trouvent une solution plus rapidement que ça. Moi, je pense que ces recettes-là, comme on va les appeler, là, il y a un mécanisme de compensation, ouais, je comprends ça, bien, mais il faut que ces recettes
soient. Ça va nous coûter encore plus cher en tant que société, ça, parce que ça va être à nous, c'est nous qu'il va falloir qu'ils financent tout ça. Là,
ouais. Mais au moins, le monde ne mourra pas pendant une pandémie. Tu sais.
Ouais, mais là, c'est parce que je comprends qu'il faut réfléchir à ça, mettons,
ouais,
mais c'est pas si simple.
Non, c'est pas tout ou rien.
Si c'est financé que par le public, il arrive quoi avec l'économie des plus grands pays du monde?
Je trouve que pas mal à l'économie publique, moi. Là.
Ça aussi, ça a un impact sur la vie des gens. Là.
Mais peut-être que ce qu'on envoie comme taxe, ça pourrait être mieux géré, puis que finalement, il y a...
Ça, oui.
Tu sais, c'est vrai que le problème n'est pas simple.
C'est des choix. Nous, au Canada, il va falloir faire cet examen de conscience-là également.
Vraiment.
Il faudrait être plus autonome, pas mal.
Et c'est pas facile. C'est pas tout ou rien. Et je termine avec l'état des écoles. Et ça continue de se dégrader depuis l'arrivée au pouvoir de la coalition Avenir Québec. C'est sûr que peu importe le gouvernement, ça continue de se dégrader parce que les écoles sont dans l'état qu'elles sont en ce moment. Aujourd'hui, 56% d'entre elles sont vétustes. Alors ça, c'est un état et abîmé par le temps. Et c'est ce qu'a affirmé, je reprends les mots de Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation. C'est lui qui a dû admettre tout ça hier lors de l'étude des crédits budgétaires de son ministère. Il a été forcé d'admettre que son gouvernement est loin de son objectif qui prévoit que 85% des écoles seront dans un état satisfaisant pour la prochaine année scolaire. On a
tough.
Besoin d'argent partout, finalement.
Ça va être tough. Hey, écoute,
construire une école, il faut que tu penses. D'abord, il faut que ce soit moderne. Il y a des écoles qui n'ont pas traversé le temps de l'arrivée des ordinateurs. Là. Des écoles qui n'étaient pas prêtes à ça. Là.
Ça, puis c'est parce qu'il y a une époque aussi où est-ce qu'on construisait sur le modèle de la prison. Hein. Les polyvalentes, là. J'en connais une couple, moi, ouais. Que tu regardes ça et tu te dis c'est un pénitencier ou une école pas évident. Pas évident, on va y aller béton, tôle, puis ça va être pas mal ça. Puis les fenêtres, c'est facultatif. Ça.
Les fenêtres.
Mais bon, c'est ça, c'est facile aussi à même
la ventilation et les champignons sur le plafond suspendu de mon école secondaire m'a marqué à vie.
Oui, de l'amiante dans les murs, puis c'est ce genre d'affaires-là, là, qu'il y a des écoles.
Les gros cercles horribles là, qui apparaissent gris, horribles, tu l'enlèves, c'est comme un champignon.
À nous autres, à mon école secondaire, là, ils ont tout rénové le sous-sol, ça c'est vraiment hot. C'était une école privée, mais tu sais, ils ont une grosse campagne de financement, puis là, je suis retourné voir, puis c'était magnifique. Mais nous autres, à l'époque, là, c'était les... À cafétéria, tu sais, il y avait de la margarine puis de la mayonnaise, mais en chaudière, là, comme quand tu commandes un fournisseur de cafétéria. Puis ils accrochaient les chaudières vides, une fois vides, ils les accrochaient au plafond, puis les tuyaux coulaient.
Oh non!
Fait que tu te promènes dans le corridor en bas, là. Tu sais, t'avais de la chaudière accrochée au tuyau, puis ça dégoûtait un peu partout.
Oh, là.
C'était pas fameux. Puis.
L'eau a tombé-tu à terre?
Non, c'est
ben,
ça.
Ben, c'est ça.
Puis quelque chose comme 4-5 ans après. Ou écoute, je dis 4-5 ans, je sais pas exactement quand, mais. Tu sais, dans les quelques années suivant ma graduation, écoute, ils ont tout rénové ça. C'est beau, là, à mon conventum, l'an passé, il y a deux ans. On est allé voir.
Mais oui, mais on y attendait que les petits bandits s'en aillent.
Hey, c'est beau ce qu'ils ont fait. Là, c'est école du futur. Là, c'est toutes des
aires vertes.
Pis, hey, les jeunes, ils doivent capoter. mais <t'sais, rire> eux autres, ils savent pas que nous autres, c'était des petits locaux avec des cases. Ça sentait pas très bon. Puis qu'il y avait des chaudières accrochées au plafond. Là.
Moi, je te relance d'abord. Moi, j'allais à Rochebelle. Puis il y avait déjà une palestre de gymnastique. Mais tu sais, c'était pas très évolué. Puis après que j'ai quitté, ils ont construit une palestre de gymnastique. Moi, je suis très content qu'ils aient fait ça après. Plutôt qu'avant, parce qu'avant, on aurait eu plus de cours de gymnastique. Déjà qu'il fallait faire des routines de roulade et de niaiserie.
Toi, non, c'est de l'acro-gym.
Toi, t'as fait des roulades?
Au secondaire, là, on a eu au moins 3 ans sur 5 où il y avait une session de gymnastique.
C'était de l'acro-gym.
Une niaiserie de marchage sur la poutre, puis de cheval sautoir, puis
des espaliers. Cheval sautoir.
Puis il y avait aussi, je sais pas si t'as fait des pyramides, là. Il fallait être vraiment comme du cheerleading, là, des montées de.
Cheerleading.
Mais il y a des sessions où on jouait au hockey, puis que là, ben, c'était plus le fun, tu sais.
Puis, on rit, as-tu fait des.
Oui, j'ai ça, des espaliers.
Des roulades.
Cheerleading, un peu moins des roulades, oui.
Des espaliers.
Des espaliers. C'est accroché après le mur.
Moi, je connais le palier.
C'est comme un gros module qui déploie.
Oui, c'est en bois,
ouais.
c'est des barres. Des
barres. Oui.
Le cheval aussi.
On avait le Tess Cooper, nous autres.
Oui, on avait.
Le Tess Cooper, c'était pas comme le Tess
Cooper.
Oui, c'est ça. Ça, c'est, mais c'est dans le temps, Ray, mais c'est encore là.
Ouais, c'est ça.
Mm. Non, mais nous, ils appelaient ça le léger VO2 Cooper. Max. Puis c'était pas Lambert, c'était léger. Non,
léger Cooper, là.
Mais il n'y avait pas un Lambert dans la gang?
Non, c'est un sirop, ça.
OK, VO2 Max.
VO2 Max, oui. Ça, c'est avec un masque en face.
Ah, léger Lambert, test.
Léger Lambert.
En anglais, puis en français,
ça change. Le test VO2 Max, c'est différent du test Cooper, ça.
Pas fou, le gars.
Mais le cheval, moi, ça m'a laissé de mauvais... Écoute, le gros bloc de bois qu'on empilait là, après un genre de trampoline.
Oui.
Un genre de plongeon trampoline. Puis à un moment donné, il y avait une prof d'éduc qui l'avait mis trop près du mur en béton et mon ami s'était cassé le nez. Ça n'a pas pensé, ça, cette position dans le
jeu. Ballon prisonnier, c'était le fun. Dans les récréations, c'était le fun.
Moi, mes plus beaux souvenirs d'éducation physique, c'est au primaire parce qu'on jouait. Tu sais, quand t'es. Au primaire, c'est vraiment, on jouait. Puis là, au secondaire, c'était plus choisi ton sport. Puis il y avait badminton, soccer.
Ah, ouais.
Mais au primaire, là, moi, j'ai joué au ballon prisonnier. J'ai joué au drapeau.
Ouais.
Le jeu
ballon
de drapeau, quai. C'était.
Ballon hot, canadien.
Ballon-quille.
Oui, écoute, dernier debout. Ballon-quille.
Ballon-quille.
Kickball. Kickball aussi, comme du baseball.
Kickball, oui.
Kickball, ça, c'est le fun.
Ballon canadien. Fun des jeux d'éducation physique, là.
Mais ballon-quille, nous, au secondaire, on n'avait plus le droit de jouer. Notre groupe à nous, là, ça devenait trop agressif.
Ça se garochait des
quilles. Les gens étaient rendus bien trop intenses.
On avait
de la compétition au ballon-quille.
Ah oui, hein, c'est...
Groupe 31, c'était funny.
Ouais.
Funny. Quand j'étais animateur de terrain de jeu, j'avais trouvé une méthode pour calmer les ardeurs des plus tannants. Je sais pas si je vous l'ai déjà compté. C'était une game de dodgeball, là, de ballon chasseur. Sauf que... Tu sais, des petits gars de 12-13 ans là, qui sont meilleurs que tous les autres dans le sport. On a tout le temps 2-3 qui sont meilleurs que les autres. Puis moi, c'était tout le temps que des petits gars, puis c'était des camps de sport. Fait que c'était tous des petits sportifs. T'sais. Fait que les 2-3 petits fatigants, ils ont du gaz, là. Ils ont du gaz, sont meilleurs que les autres dans le sport, sont un petit peu plus grands, puis ils sont fatigants, tu sais. C'est que ma stratégie, c'est que j'organisais un grand match de ballon chasseur.
Il y a un peu de jalousie dans ton affaire, mais c'est pas rien.
Non, c'était pas ça pantoute.
Non.
C'est parce que les jeunes. Non, mais
il
y en a des petits plus introvertis. Fait que là, ben, ils les écœuraient.
Ah ouais.
Puis là, ben, tu fais des équipes de sport, tu essaies de les séparer parce que sinon, ils sont trop forts, tu sais.
C'est nono des enfants. C'est nono des enfants aussi.
Ben
des
oui,
fois,
ben, puis là, ben, quand ils sont pas ensemble, ils bougonnent. Ah ouais, puis, fait que là, moi, ça m'énervait, ça. Puis, tu sais, les pauvres animaux. Puis là, je veux pas faire du sexisme, mais tu sais. Il y avait aussi des animatrices, eux autres, il y a de la misère avec eux autres.
À prendre le contrôle.
Oui, puis ils se faisaient manger à laine sur le dos. Pis... Fait que là, moi, mon truc, puis nous autres, au camp où je travaillais, ça changeait à chaque semaine. C'est comme des camps où tu camps spécialisé. Fait que là, cette semaine, je fais des sciences. L'autre semaine, je fais du sport. L'autre semaine, je fais de la musique, whatever. Fait que là, quand j'arrivais le lundi, puis j'ai spoté rapidement, j'organisais un grand match de ballon chasseur. Mmh. Les petits toughs, les meilleurs, je les mettais tous dans la même équipe. Fait que là, ils étaient contents, ils se tapaient des mains. Hey, yes, le matin, il est niaiseux, ils nous ont mis ensemble, on n'est jamais ensemble.
On gagne, c'est sûr.
Moi, je me mettais dans l'autre équipe.
Oh!
Là,
je faisais la face.
La face, voyons.
Ben oui.
You!
Ben non, mais tu sais, les ballons de ballon chasseur, là.
Les ballons rouges,
là. Bon. Ouais, tu sais, les gros ballons, là.
Ça rebondit, là, mais c'est quand même rude, là.
Ouais,
quand
ça
même
fait pas mal.
Bien pardon?
Les petits, ils font mal.
Bien lancé sur le nez.
Moi, je pense qu'avec ta grande poigne puis ton grand crinquage de bras.
Oui, crinquage. J'aime ça que le crinquage, tu l'as crinqué comme un petit truc que tu crinques, finalement.
Un crinqueur?
Non, c'est parce que mon prof au primaire. Mon prof au primaire, sixième année, il visait les meutes de filles, tu sais, au ballon prisonnier. Saint-Denis, il y a tout le temps une agglomération de filles qui veulent pas jouer là, dans un coin ou dans l'autre. Fait que les gars puis les filles qui veulent jouer, ils jouent ensemble, mais tout le temps les papoteuses.
Il y a tout le temps une fille qui mange le ballon sur la poire.
Ben, c'est parce qu'il faisait ça, puis il se craquait ben gros le bras. Oui. Le prof venait jouer comme dans ton truc, là, puis il... Poum! Des meutes de filles qui parlaient. Fait qu'une fois de temps en temps, il en recevait un, là, pas à bonne place.
Ah, moi, je me souviens que l'histoire que je vous raconte, c'est une histoire vraie, là. C'est une histoire vécue de mes premières années.
Mais c'était pas un mensonge.
J'avais 16, 17 ans. Non, mais c'est parce que je te dis ça, puis ça me rappelle c'était qui, les jeunes. Okay. Je me souviens que, il y en a un qui s'appelait Campagna, mais lui, je l'ai perdu de vue. Il y en a un, j'ai oublié son nom, puis l'autre, c'était Lolo, le petit frère à mon chum Mekus.
Ben
puis
oui.
Lolo, lui, en plus, c'est que je le connaissais, parce que c'était le petit frère de mes grands chums.
Fait que lui, on se gêne
puis
moins.
Ben, c'est parce que lui, là, tu sais, moi, j'avais 16, 17 ans, puis lui, il avait 13, mettons.
Tu savais que c'était un petit Christ, mais tu pouvais y lancer dans la face.
On allait chez eux autour du fond, on prenait un coup, on fumait des battes, puis Lolo, il nous voyait faire, puis il savait bien. Fait que, tu sais, lui, il était un peu trop chumé avec moi, là, tu sais. Fait que lui, j'avais garnoté bien dans la face. Puis c'est-tu qui est arrivé? Non, mais c'est pas pour leur faire mal.
Y a-tu quelqu'un qui t'a réglé ton cas, un moment donné,
toi? Non, mais juste pour les hoppes là, les saisir.
Oui, les hoppes là.
Montrer c'est qui le boss. Montrer c'est qui le boss. Puis après ça, les kids, non, mais.
C'est qui le boss?
Tu sais, il était super respectueux après ça, là.
Mais oui, c'est sûr. Moi, d'avoir un ballon dans la face puis saigner du nez pendant 2 heures, c'est bien que je respecte.
Il y a personne qui a saigné.
Je te méprise. Je te méprise, mais je te respecte.
Je les méprisais pas, au contraire. C'est parce que je les aimais puis que je les respectais que je faisais ça.
C'est de l'amour.
Non, mais c'est pour leur montrer, c'est qui le boss?
Les gens qui...
C'est de l'éducation, un peu, à un moment donné, là, tu sais. Oups! Ça te saisit puis tu fais comme, hey, mais saisit. C'est vrai, mais lui, c'est lui le boss, finalement.
Ben oui, c'est lui, on doutait. Un gros poilu de même, bien tatoué, là.
Ça marche pas, ma théorie. En tout cas, moi, je croyais que ça avait bien marché, mais si vous, que je voulais dire.
Mais si, c'est qui le boss?
Non, mais après ça, là, on dit que les jeunes sont élevés dans Watt.
Ils craignent un ballon.
Les jeunes, ils sont snowflakes, hein, puis là.
Totalement d'accord.
Ils peuvent pas avoir moindre petit échec, là. Ben là, c'est la fin du monde. Ben, eux autres, ils avaient mangé un ballon d'en face, puis tu sais quoi?
Ils étaient prêts.
À cette heure, dans la vie, quand ils mangent des ballons figuratifs d'en face,
ils en redemandent.
Ben, ils se relèvent, puis ils continuent d'avancer, dans le respect. Moi, je suis convaincu que c'était une bonne théorie,
moi aussi,
mais.
Ben,
il doit avoir une couple d'auditeurs.
Ça, ce petit point-là, je suis d'accord avec toi. Là. Qu'il faut se faire une petite carapace et un peu de corne dans les mains. Ça,
le but, c'est pas de leur faire mal.
Non.
C'est juste de les
passer un message.
De les saisir un peu.
Oups. Puis dans le poil, ça n'aurait pas passé. Fait que...
L'intention était là.
C'est ça. Pas l'intention de blesser. L'intention d'éduquer. Tough love. Regarde, il y en a qui dit ça par texto. Tough love. C'est exactement ça que c'est. C'est ça.
Mais toi, qui t'a réglé ton cas? Tu m'as répondu.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Un gros mangeur.
Mon cas.
Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui...
Mais je l'ai mangé des ballons d'empoire.
Voilà.
Hey. Moi, je te dirais, qui m'a réglé mon cas? J'ai un coach de soccer au secondaire, moi, qui m'a un peu réglé mon cas.
Ah oui, mais tu t'es fait intimider, t'intimides les autres. On sait bien, là, ça, c'est une roue là, sans fin là, d'intimidation.
Mais non, mais c'est pas de l'intimidation. C'est de l'éducation.
C'est qui le boss?
C'est de l'éducation, mais version comme un grand frère avec son petit frère. Oui. C'est plus ça.
16-13, correct.
Ouais, 16-13.
25-13,
ça
aurait été tannant que tu lances des ballons dans la face.
C'était pas 25-7, là. Ouais. C'était pas des petits bouts de rien que je garnotais ça.
Je serais pas capable.
Mais 7 ans, il faut apprendre à
attraper. C'est secondaire 4, secondaire 1, là.
C'est secondaire 4, secondaire 1. Ouais, c'est ça, dans ces eaux-là.
Là, secondaire 4, secondaire 1 à 4.
Secondaire 4 à 5, puis 6e année à secondaire 1, mettons.
Ouais.
Ça marche,
puis ils se connaissent. Puis ils se connaissent.
Ouais, laissez ça aux autres, moi, je pense.
Ouais, non, mais en plus, puis tu spots les petits toffs. Hein? Les petits toffs sont plus capables d'en prendre. C'est sûr.
Ils ne plaindront pas leurs parents, partant.
Lui qui est gêné, qui parle pas beaucoup, qui a pas une grande estime personnelle, puis qui est plus fragile.
Ça serait du bullying.
Une balle en pleine poire, là, tu sais. Ce serait pédagogiquement une mauvaise intervention. Tout est de la pédagogie.
On approcherait du bullying, moi, je pense.
7h40, on va prendre une pause parce qu'on va se retrouver dans la merde. Ce sera pas long.